François Strossard et la belle équipe pour la récré littéraire de France Culture. À l'affiche, Joli dimanche et Droit de réponse du renard par Lucas Fournier, Patrice Minet. Et pour le petit rimailleur illustré, Violaine Schwartz et Patrice Caumont sur la bouteille.
Qu'on la chambre ou qu'on la frappe, du fût à la flûte, de la grappe à la nappe, de la cave au canon, du raisin au festin ou du cèpe au cul sec, c'est le plus court chemin.
Ensuite, le point de vue de l'essoreuse à salade et la lettre d'excuse de Don Gomez à Don Diègue avec Jacques Vallée dans le rôle de l'énervé.
Guilbeau, je t'envoie cette bafouille parce que la famille s'en mêle. Ton fils Rodrigue est venu me provoquer en duel, ce petit con qu'on n'avait jamais vu les armes à la main. Je n'en fais qu'une bouchée de ton bichon.
Puis la brève histoire des choses, un nouvel épisode de Jacques Abertrand et le diagnostic à l'aveugle avec Hervé Le Tellier dans la peau du piégeur. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58. Merci de votre fidélité. Welcome au nouveau. Les Papous à retrouver sur franceculture.fr pour le téléchargement pendant un an et la réécoute 1000 jours. Les Jolis Dimanches, saison 1, nouvelle variation sur ce jour délicieux qui nous réunit chaque semaine. Un joli dimanche d'Hervé Le Tellier. Et quel joli dimanche, Hervé ?
Eh bien, c'est le joli dimanche d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, avec dans le rôle du vicomte. J'ai nommé Jacques Jouet, le vicomte.
Personne. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits.
Il s'avance vers Cyrano qui l'observe et se campant devant lui d'un air fat.
Le dimanche est un jour où je m'ennuie beaucoup.
Oui.
Ha !
C'est tout ?
Mais...
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, violent. Un jour tant fait pour s'embêter, il faudrait dès midi que je me suicidasse sous un train TGV à la gare Montparnasse. Zoologique. Hélas, on s'ennuie tant et plus. Au jardin Bagatelle, un canard s'est pendu. Technique. Il semble bien que le temps soit figé. L'aiguille de ma montre a du mal à bouger. Inspiré. Qu'on s'étonne, réflexion profonde, que lundi et dimanche comptent autant de secondes. Lyrique désœuvrée, par un septième jour, un poète a conçu les romans et l'amour. Philosophique, il faut, sitôt que l'on s'endort, en profiter pour s'habituer à la mort. Plaisant, au déjeuner, cependant que l'on marche, songeons que c'est le jour où la vie fait relâche. Positif, évitons la journée dépressive. Profitons-en plutôt pour faire une lessive. Gourmand, qu'importe au fond ce dimanche d'ennui, reprenons une part de ce beau clafoutis. Blasé, à table on craint l'extinction de la faune. Éloignons-nous pour voir le dernier Game of Thrones. La rime est riche. Pratique, l'on s'endort malgré la caféine. Eh bien, soyons malins, repeignons la cuisine. Rusé, chacun bâillant pendant les flageolets, brûlons donc le rôti pour avoir un sujet. Odieux. Contre l'amour, bruyant, pratiqué le matin, perçons l'après-midi dans le mur du voisin. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit.
Quand un personnage de fiction s'estime maltraité, voire méprisé par son auteur, quand il se plaint de ne pas avoir le beau rôle, de ne pas être par exemple la si jolie princesse, mais l'horrible marâtre, de ne pas jouer d'Artagnan, mais l'obscur comte de Rochefort, bref, de ne pas être au centre de l'histoire, eh bien il peut s'exprimer chez nous au papou dans la tête et crier son amertume pour demander à son auteur des petits aménagements. Les héros seraient fatigués de la monotonie de leur jour. Et c'est le cas de Lucas Fournier. Qui êtes-vous, Lucas ?
Je suis le renard.
De la fable ?
Non.
Ah bon ? De quoi ?
Du roman de renard ?
Non, non, de Saint-Exupéry.
Ah, oh là. Ah mon Dieu !
Ah oui, là. Bah oui.
Ah. Il y a comme un peu de désolation dans ce « ah », mais
je
bon, pourquoi pas.
Qu'il se plaigne.
Oui, voilà, il a le droit d'avoir une vie intime, le renard, et de se plaindre à Saint-Ex.
À Antoine ?
Oui.
Oui, chez Antoine. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mais ce que j'ai à te dire se voit comme le nez de Cléopâtre au milieu de la figure. Je suis ton renard et je suis la risée du désert. Les hyènes s'esclaffent, les chameaux se marrent comme des bossus, bien sûr, et les mirages sont sans pitié. Antoine, tu es un garçon sympathique et bourré de bonnes intentions. Tu as sans doute voulu casser le mythe de La Fontaine, selon lequel nous sommes tous, nous, renards, des tricheurs, sournois, madrés, rusés, truqueurs, narquois, lâches. Alors tu as fait de moi le contraire, un mièvre, un sentimental, un obséquieux, un sincère. En principe, un fennec comme moi, parce que déjà, au départ, je ne suis pas un renard, mais un fennec. Alors Antoine, par parenthèse, si tu pouvais changer tes images ridicules où tu me dessines en roux, avec des poils épais, dans le désert, on ne porte ni chapka, ni manteau de fourrure, surtout roux. Je ne suis pas la grande Zoa du désert. Donc, pour un fennec comme moi, le titre de renard du désert, c'est un bâton de maréchal. Ça suscite le respect des Touaregs et des oasis. Mais là, franchement, un renard du désert qui babille avec un petit garçon, ce n'est pas possible. Quand un renard rencontre un petit garçon solitaire dans le désert, c'est tout de même une hypothèse d'école, parce que de mémoire de Fennec, le dernier solitaire qu'on ait vu marcher dans le désert depuis Jésus, c'était Théodore Monod. Pas vraiment l'âge d'un écolier. Et bien, dans l'hypothèse ultra-optimiste où un garçonnet serait dans le désert, dans ce cas le renard, il lui taille une bavette, et bien sûr, la bavette, il la mange. Punto et basta. C'est a priori meilleur que le chameau ou le lézard. Alors moi, dans l'histoire, non seulement je reste à jeun, mais en plus, je suis censé discuter avec cet enfant blond. Je suis le renard qui murmurait à l'oreille des jouvenceaux. Les berbères se bidonnent. Il faut dire que les occasions de rire sont rares dans le désert. Et de quoi parlons-nous avec l'écolier blond ? Non, j'en frémis rien que d'y penser. De roses et d'horticulture, façon Truffaut. Là encore, du Ténéré à Tamanrasset, ce n'est pas commun. Relis Forsagan ou l'Escadron Blanc, tu verras bien. Avec tout ça, je suis le renégat du désert, et encore, si ma réputation se limitait à la zone saharienne, mais non, ton succès universel a fait qu'à cause de moi, la représentation du renard dans l'inconscient n'est plus la même. 30 000 ans de certitudes zoologiques remises en cause, je suis dans l'univers mental des enfants et des parents, devenu sur la terre des hommes une sorte de peluche charmante. Ton passage sur l'apprivoisement, le « s'il te plaît, apprivoise-moi », qui est une reprise ignoble de la dialectique hegélienne du maître et de l'esclave, me fait passer pour un traître à la cause animale. Mes collègues vulpiniens me le reprochent. À cause de moi et de toi, Antoine, le renard a perdu son identité sauvage, ce mélange de loup et de chacal. Voilà, cette histoire me met en rage, mais elle peut être jugulée. Il te suffit de reprendre, sans y toucher, la première phrase du livre. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Mais c'est moi qui parlerai et pas ton aviateur. Mmh. Et tu racontes l'histoire d'un renard seul dans le désert qui attend. Ça s'appelle le désert des renards. Et à la fin, un avion arrive et moi je mange l'aviateur, le mouton, le garçon, le serpent et même l'allumeur de réverbère. Ça ira comme ça.
Mais ça fera pleurer les enfants, évidemment. Qui le
mais ils
liront.
Pleurent déjà avec le
mais,
petit
mais
prince.
Mais peut-être ils pleureront encore plus, hein, je ne sais pas moi.
Non. Ou ils ne pleurent pas non. Dans le petit chaperon rouge.
Non, parce
non,
que
ils ont peur.
Ils sont terrorisés, ils n'ont même plus de larmes, leurs yeux sont secs.
Et c'est le désert, Françoise.
Bon, est-ce que vous êtes Saint-Exupéry, et Patrice Millet?
Non, je suis un ami à lui qui l'a croisé de temps en temps.
Et qui a capturé la lettre.
Voilà, et alors j'explique un petit peu ce qui se passe et comment ça s'est passé.
Mais à qui ? Vous répondez au renard ?
Bien sûr.
Ah oui, vous le prenez en considération.
Enfin, bien sûr.
Ces problèmes vous touchent, quoi.
Oui, il m'énerve un peu.
Ah bon ? Ah oui.
« My dear Fox ouais. », il s'agit d'une lettre donc de Laurence d'Arabie. Mais forcément, oui, c'est le moment. « Ce cher Anthony », il parle sans aucun accent français, évidemment, comme tous les Anglais.
Oui.
« Ce cher Anthony m'a chargé de vous répondre, occupé qu'il est à réparer son zingue. Il m'a dit « Envoie quelques mots à celui-là qui cesse de glapir. » Car les renards glapissent.
Oui. Oui.
Même dans le désert. « My dear friend », que vous êtes pretty, que vous me semblez beautiful dans votre livret couleur sable. On en oublierait que vous êtes un puant, sauf votre respect.
Ah oui, vous ne l'aimez pas, quoi, hein, quand même.
Ah, bon, je supporte.
Oui.
Le désert est bourré à craquer, dromadaires, nomades, cactus, armées allemandes, scorpions, souris, lézards, paquets de camels, sans parler des troupeaux, des oasis et des oiseaux qui les fréquentent à l'heure de l'apéritif. Vous avez été choisi entre tous les goupils pour parler philo. Ce qui est déjà très étonnant. Mmh. Et en compagnie d'un aviateur et d'un enfant, ce qui est encore plus renversant. Depuis, vous parcourez le monde entier à dos de phénomènes d'édition, sans jamais avoir fait d'études. Votre cursus universitaire est des plus courts. Écarté du chômage ad vitam aeternam, dans quelques années, dans le domaine public, échappant au destin, promis au mieux de col de fourrure, vous trouvez votre destin peu raisonnable. Avez-vous pensé à toutes ces personnes en fin de droit qui n'ont que du sable à manger, à tous ces prêcheurs qui errent autour de vous sans jamais trouver une oreille intéressée? Votre portrait, si flatteur, vous semble une déchéance. By Jove! Il vous aurait fallu Velasquez, le Tintoret, Vermeer de Delphes, or what? Alors, my dear, enjoy, your destin is nice. Vous avez remarqué les progrès que j'ai fait en anglais.
Oui. C'est phénoménal. C'est...
Et si vous vous ennuyez, prenez de la lecture. Je joins à ce message quelques milliers de pages de mon œuvre et les contes du Chat-Perché et de Marcel Aimé. I kiss your lovely museau, Lolo.
Lolo?
Bah, Lolo pour Laurence.
Laurence,
oui.
Quelle familiarité.
Le beau Laurence. Oui. Écoutez, bon, ça convient pas très bien à ce que vous vouliez, mais c'est quand même une jolie lettre.
Oui,
que
et
vous
puis il a introduit dans Saint-Exupéry une dimension sociale qu'on ne voit pas toujours.
Hein. Absolument, mais... la fin de droit.
Qui est quand même en creux, mais
qui est tout au fond.
Oui. En fait, c'est la dernière planète. Et il n'a pas eu le temps d'y aller. You can't go to the beach, not enough water. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything's pure there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth, but the greens don't like us. They want us to leave the place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, you can't really move here. The law of gravity is much, much stronger. It's like a tragedy, you're grounding on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun.
Camille, Mars is no fun. En piste pour le petit rimailleur illustré, Patrice Caumont, Violaine Schwartz et Gérard Mordilla, dans la position de rédacteur ou de contrôleur de notre dictionnaire en vers de la langue française. Un dictionnaire dans lequel toutes les définitions sont abordées par la face poétique. Un mot, un poème, à dire ou à chanter. Et forcément, chacun sa subjectivité, même si on apprécie que tous les sens des mots soient traités. Tous les sens et tous les mots aussi. Le mot « ordure » a sa place, à côté des jolis mots, des mots sympathiques. Les dimanches du dictionnaire, la séance est ouverte. Patrice Caumont, c'est un mot joyeux qui vous va bien, parce que je sais que vous aimez celle qui s'appelle la dive. Oui. C'est le mot bouteille.
Oui, oui, oui.
Que
oui.
Vous devez travailler.
La bonne bouteille.
La bonne bouteille.
La vraie bouteille.
Bon, et je sais que vous allez bien la traiter, mais vous serez quand même contrôlé par Gérard Mordilla. Pour la forme, pour le charme.
Oui, pour le charme, oui, parce que je ne suis pas un adepte de la bouteille. Donc c'est comme ça, j'aurai un point de vue extrêmement critique sur ce qui va se dire.
Bon. Alors, comment abordez-vous la bouteille, Patrice?
C'est un long poème, hein. C'est un peu hugolien, c'est presque la légende des siècles.
La légende des bouteilles, quoi.
La légende des bouteilles. Et exceptionnellement, comme on le faisait jadis à la radio pour les chansons, j'aimerais dédicacer ce texte à mon ami Robert de Tanguy, dont le jugement mettrait Paris sans bouteille.
C'est fait.
La bouteille, qu'on la chambre ou qu'on la frappe, du fût à la flûte, de la grappe à la nappe, de la cave au canon, du raisin au festin, ou du cep au cul sec, c'est le plus court chemin. Au comptoir des bistrots, elle joue sa vie au dé et passe tout son temps en attendant Godet. Fille du tonneau de Nover et la nourrice, pour honorer Bacchus, prête à tous les sacrifices, elle subit ce châtiment de Danaïde, emplir notre coupe qui d'un seul trait se vide. Dive bouteille et fontaine du savoir, car son doux élixir nous fait doublement voir. Princesse au bois dormant, mais plutôt bien bouchée, jusqu'à sa délivrance, elle restera couchée. Elle repose et rêve à son somme lié de se faire chambrer par le sommelier, qui hélas la fera bien vite décanter. Par respect d'étiquette, elle méprise le pichet et rêve de rester en carafe de cristal sans se faire descendre d'un trait, d'un coup fatal, pour finir en cadavre ou pire en tesson dans la fosse commune de ce verre caisson à bouche de gorgone du tri sélectif, piquette ou grand cru, face à la mort, c'est kiff-kiff. C'est Cendrillon à la robe de verre soufflé, costumé de coiffe ou blond manteau de paille, ces intermittentes partiront en tournée, tenir leur rôle aux scènes de ripaille. Le kilo de rouge qui tache et la bouteille à l'encre, la bouteille à la mer, qui elle a levé l'encre, la fillette et son joli petit cul de bouteille, la canette, le litron en capsule vermeille, la Chianti, ventru sous son paréo étroit, thermos, la grecque, qui nous fait ni chaud ni froid, Molotov, la russe, au cocktail qui amoche, la bouteille de LED, qui n'était pas si moche. En armure de fer, ces Jeanne d'Arc profanes vont tenir sous pression butane ou propane. Elles sont un peu gourdes, ces filles de barrique, qui prenant de la bouteille, restent bourriques. Le caviste jaloux a beau les bichonner, elles vont ses traîtresses se faire bouchonner. Plus grandes que larges, sauf Dame Jeanne l'obèse, elles ont de l'épaule, surtout la bordelaise. Celle de la bourguignonne tombe en carafe, l'alsacienne hausse son col de girafe, la champenoise épaisse, un gros derrière, elle porte cape d'or et vraie muselière, car elle est roteuse, mais point roturière. De toute boutanche, c'est elle la plus fière. C'est un vampire qui dort dans l'obscur caveau, qui va droit au cœur, de terre à la veine cave, gorgé du sang rouge et frais tiré du tonneau, du vif, du pur, tel qu'au bouchon déjà on bave. Boire fait choir. Dès que la bouteille vous mord, c'est perdu, il vous en faut encore et encore. À chacun sa façon de ridis chercher, descendre une bouteille ou descendre au chais, c'est plonger vers l'enfer, assoiffé tel Orphée. Il n'est point de bouteille qui ne soit de plongée, tout dépend des abîmes auxquels vous songez, il n'est point de bouteille qui ne soit de plongée.
Oh là là, qu'est-ce que c'est de beau! On aurait bien repris un petit verre. Hein.
Oh bah c'est oui. Carrément la légende des chais. Voilà.
Ouais, mais il l'a un peu dit au début. Oui. Oui, et avec la petite pointe d'accent, vous pensez que c'était mieux que...
Non.
Non.
Bah oui, l'accent, c'est le midi.
Mais voilà.
C'est les vins du soleil. C'est Bordeaux. C'est le coteau du Rhône. C'est le Languedoc. C'est les coteaux du Roussillon. C'est là les pays du Sud. Voilà, c'est le vin de l'Espagne. Le vin du Portugal. Et de l'autre côté, de la Méditerranée.
Quoi
une petite citation.
Préférez le Boulawan,
le gris de Boulawan. Quelque chose à ajouter, alors Jean-Armandia.
Non, j'ai beaucoup aimé l'évocation de tous les noms que l'on donne à des bouteilles, fillettes, dame Jeanne, ouais. Topette, flasque, tourie, etc., etc. Et puis aussi le passage discrètement fait sur la bouteille vide, qui est un cadavre. Voilà, c'était très beau, ça. Alors, c'est vrai que je m'attendais peut-être de la part de Patrice Caumont. Il évoque le verre bouteille, mais il aurait pu rajouter du verre véronèse pour nous donner une idée peut-être de la comparaison entre les deux tons de verre.
Mmh.
Et puis,
ouais, pas faux.
Il y a un manque quand même épouvantable dans le dictionnaire. D'abord, il n'y a aucune citation à propos de la bouteille.
Non.
Et surtout, il n'y a pas la moindre allusion à Romain Bouteille.
Ouais,
qui est
dont j'ai une citation.
Dont tu as une citation,
bien
et bien voilà, ça va être immédiatement réparé.
Alors, c'est Hervé qui compense.
Au Café de la Gare, souvent Patrice Minéral.
Pour le petit rimailleur illustré, on change les rôles. Violaine Schwartz,
oui.
Le verbe tromper et se tromper, ce qui n'est pas la même chose.
Non.
Vous êtes arrivé pour une définition en vers et je l'espère chanter.
Oui, chanter.
Oh, ah. Ça va être très très bien, on va se régaler. Et c'est Patrice Caumont qui vous contrôle.
Voilà,
Et c'est pas mal non plus. Hein.
Voilà.
Vous chantez sur quel air?
Sur l'air de Allô Maman Bobo.
D'accord.
Je trompe ma faim en buvant des mentalos, du coup pipi à gogo. Je trompe le temps en tapant sur mon piano, résultat j'entends plus trop. Je mets un cake au four mais je dis que je le mets au frigo. Au secours j'ai le cerveau ramollo, allô maman bobo. Je sais pas ce que j'ai, je me trompe tout le temps dans les mots. Allô marrant coco, allô navrant robot. Je trompe l'ennui en tchatchant sur les réseaux, résultat j'ai mal au dos. Je trompe les gens, j'invente bobards scénarios, je deviens très forte en complot. Je me gave de gâteaux et j'accumule les kilos, tout ça n'est pas réglo réglo, allô méchant cerveau. Faut que je fasse dodo, je dis les mots recto verso, allô ardent corbeau, allô touchant poireau. Je trompe au jeu, du coup je ramasse des euros, mais j'ai peur au moindre écho. Je trompe les regards en me cachant sous mon polo. Je prends le métro incognito. Je confonds les numéros, me v'là au Trocadéro. En face de la tour Eiffel, allô très grand zéro. Je perds mon tempo, j'assure plus trop, plus trop. Allô vibrant écho, allô charmant béco. Je trompe mon homme, c'est vrai, attire l'arigot. Je le trouve gros, pas rigolo. Il y a des jours, je me paye même un gigolo, un minot, un petit ado. Derrière les rideaux, bonjour les quiproquos, j'ai le cœur à volo, c'est le fiasco. Allô maman, c'est chaud, je joue de la trompe comme un vrai maestro. Allô drôlement dingo, allez maintenant, ciao.
C'est très très bien. Bon, c'est parfait.
On l'a vu en direct à la radio.
Oui.
Oui, oui. Oui. Patrice, comment c'était séduisant cette chanson?
Ah non, oui, c'était tout à fait. Elle ne s'est pas trompée en la chantant, donc c'est parfait. Oui. C'était très complet.
Oui.
Il manque peut-être, ou ça m'a échappé, un trompe-la-faim ou un trompe-la-soif.
Ah, je trompe ma faim en buvant des mentalos.
Ah oui, bah alors voilà. Oui, donc,
c'est vrai,
au début,
vous
ça
êtes trompé là.
Ça m'a échappé. Donc, voilà. Donc c'est parfaitement complet.
Bon alors, bravo. Il y a une petite citation. Dans
oui, il y a une citation de Sartre qui est vraiment à la hauteur de la pensée du grand philosophe. Voilà une histoire morale où je me trompe fort.
Ah oui,
Sartre. Ah, oui,
Et c'est
j'avais
beau,
deux
c'est...
heures.
Dette Combo, Lisboa Mulata.
Les papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture.
Et pour les papous, un objet se raconte. Moi, divan, moi, parapluie, moi, gants de toilette. Tous les objets ont le droit à la parole pour dire leur état de choses, pour raconter leur vie, de manipuler les relations au travail avec les collègues, rivaux peut-être. Que peut penser un couteau à fromage d'un couteau suisse, par exemple? Question. Les contacts avec leur propriétaire, la douceur de la main de monsieur sur la poignée de porte, suivie de cette désagréable rencontre avec les mains des enfants collantes du goûter. Ça, c'était une vie de poignée de porte et elle est à retrouver dans l'anthologie des papous dans la tête chez Gallimard. Un nouvel état de choses avec Jacques Jouet, Véronique Brindeau, Lucas Fournier. Jacques Jouet avec sa belle énergie.
Enfin ! C'est mon jour. C'est le jour et le beau jour. Enfin une journée divine. La 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 la. Oui, vous m'avez reconnu, je suis l'essoreuse à salade. Celle qui emporte le cuisinier, qui fait valser la cuisinière, qui tourne la tête à la laitue, qui tourne la tête Tarascarole qui tourne la tête à la Trévise, qui tourne la tête même à la Marche, qui tourne la tête à la Batavia, qui chasse l'eau des interstices de la Frisée au nom de la force centrifuge. Ma parole, je suis l'hélicoptère de la cuisine, la fusée de Tintin d'entre la poire et le fromage. Laissez-vous fatiguer une minute avant que ce soit votre tour de fatiguer la salade. Quand vous me prenez dans vos bras pour préparer le repas, je sais que c'est mon heure. Vous apprenez ce que c'est que la salade. Je vous fais décoller, moi, de votre linoléum, de votre quotidien pâteux dont le repas est le symptôme sempiternel. Vous avez beau être bien stable sur vos deux pieds, avoir chaussé vos souliers d'argile ou de plomb. Je vous soulève, moi, et vous en redemandez. Vous vous demandez si c'est assez essoré, mais pas du tout, on refait un tour gratuit, comme au manège. La salade a mille temps, mais la salade est sèche. La salade est saussable, saussable et fatigable. La salade a mille temps. Ah, vous l'aimez, hein, votre essoreuse à salade. Beauté du roulement parfait, de l'élan qu'on donne à la toupie avec un tour de main, de manivelle et de roue. C'est le moment spirituel de la préparation du dîner. Que diable, l'homme ne vit pas seulement de salade. Il vit aussi de l'essoreuse. Tu tournes d'abord légèrement pour lancer la machine, et puis tu accélères en suivant simplement le mouvement, pas d'effort inconsidéré. C'est moi qui travaille. L'eau me rafraîchit les parois intérieures. C'est l'heure de mes ablutions à moi aussi. Voilà. Voilà. La salade a rejoint le saladier. Ce sont les couverts à salade qui prennent le relais de la danse. Mais là, ça n'a plus de forme. C'est une espèce d'agitation endiablée qui n'a plus rien de festif. Un rock, peut-être. Mais tout ce que je demande alors, c'est un petit rinçage sous le robinet et qu'on m'installe à y goûter la tête en bas. Je ne demande même pas un coup de torchon. Je sais, quand la salade est entre vos dents, plus personne ne pense à moi. Rien du tout. C'est le lot des meilleurs ouvriers ou employés de maison que de disparaître dans l'oubli et dans l'ingratitude. Titude, ingratitude, comme dit Bérénice. Posez-vous pourtant une seule fois la question. Qui vous a envoyé en l'air? Qui aura fait de vous un pur esprit?
Vous, bien sûr. Vous, enfin, quand même, je trouve que vous exagérez un peu quand vous dites « c'est moi qui travaille », parce que pour avoir tourné bien des salades et pour continuer en tourner, enfin, à l'aide de l'essoreuse, je trouve qu'il faut donner beaucoup d'énergie.
Il faut changer d'essoreuse.
Ah ben, j'ai pas un petit bouton sur lequel on appuie.
Non, avec moi, il n'y a aucun effort à faire.
Ah oui. Ah non, vous croyez? Vous en avez c'est une comme ça, vous, Odile?
Non, moi j'en ai une comme un moteur de hors-bord où on tire un fil, on fait vroum, vroum.
Ah oui, j'ai ça aussi.
C'est pas mal aussi.
Oui, oui. Ça fait
c'est une cousine qui fait
travailler
ça.
Le biceps. Mal, hein. Oui. Véronique Brindeau, elle est charmante, cette essoreuse à salade. Non, puis elle chante bien.
Vous trouvez?
Oui, pas mal. Pas mal. Non, pas vous?
Eh bien, moi, je me sens un peu mise au rebut, vous voyez, parce que moi, je suis le panier à salade en grillage. Vous savez, celui qui était si pratique, qui se repliait modestement sur lui-même, qui vous rappelait le matériel de pêche, les épuisettes, les dimanches près de la rivière.
Et qu'on secouait par la fenêtre.
Voilà, exactement. C'était toujours
mieux
que dans l'appartement.
Voisins.
Oui.
Alors, je n'irai pas par quatre chemins. Vous n'avez pas le monopole de l'ivresse. Moi aussi, j'en ai fait virevolter des Batavia, des Scarolles et des Trévises. Mais avec moi, les feuilles prenaient de la hauteur. Lancées dans les airs avec un frisson de balançoire, avant de redescendre et d'abandonner l'eau sur les plantes de la terrasse ou au-dessus des passants par la fenêtre. Au lieu de tourner en rond, infiniment, comme un hamster dans une nacelle de laboratoire.
C'est vrai que ça avait du charme pour les feuilles. Non, vous n'avez pas l'air du tout convaincu, Jacques Jouet.
Mais non, je ne suis pas du tout convaincu parce que... D'ailleurs, c'est avoué, elle-même, elle avoue qu'elle arrose les passants, enfin...
Oui, en temps de canicule, c'est pas désagréable. Non
et l'hiver?
Ah, l'hiver, c'est un autre problème.
C'est des grêlons, ce sont des grêlons qui tombent dans les
rues. Y a-t-il de la salade en hiver?
Non, mais on prenait le parti pris de.
Moi, je congèle ma salade et je fais de la salade l'hiver, c'est ce que vous voulez.
Bon, Lucas Fournier, il y a les modernes et les anciens, c'est ça la vie.
Moi, j'ai très bien connu les paniers à salade,
oui.
Puisque je suis le limaçon.
Le limaçon.
Le limaçon qui est dans la salade.
Ah oui.
Dans les feuilles de salade. Et vous savez que c'est nous, les limaçons, qui sommes les concepteurs de l'essoreuse à salade. Parce que Zadis, c'était atroce de se glisser dans ces paniers à salade, justement au barreau métallique, où nous nous fracassions sur des fils stridents d'acier qui s'insinuaient dans nos chairs. Tandis qu'avec l'essoreuse, rien de cela, que du plaisir, des frissons dans cette turbine de parc d'attractions, des big splash avec l'eau qui vous assaisonne, des Space Mountain avec ses forces centrifuges qui vous collent aux parois de plastique. Ah, c'est bon ça. Et le meilleur, c'est qu'après, on reste dans la salade.
Oui.
On est là, plus que jamais, dans les plis de la Batavia. Et on se retrouve à table. Nous, les limaçons, dans les assiettes, rescapés. Puis on se fait chuchoter par les convives, malgré eux, ils ne le savent pas. C'est la vengeance des limaçons. C'est la vendange des limaçons.
Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschen grünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen blubbern lassen. Was sie dann will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und soll. Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschen grünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen überlassen. Was sie dann will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und soll. Was nun lacht, schimpft, nur sie ist auf Gut, dient, nur sie ist am Mut der Urne. Nun nege auf Schmutz, bremst, im Zisser, lieb Marisa. Na sala gurm sal batru, na fazer pis rasab dem levis, iz na fist na rut na shaf na ni azasab, shif na levis.
Nina Hagen, comme un poisson dans l'eau. Quand on oublie un rendez-vous, on pense souvent qu'on peut s'en sortir avec un SMS genre « je m'excuse, à très vite », à petite boulette, petit message. Mais ça manque d'élégance. Plus grave, si on manque le jour de son mariage, laissant une future pas encore épousée à sa détresse et toute la noce en attente, alors une lettre d'excuse s'impose comme celle de Gérard Mordilla à sa pupusse. C'était un modèle du genre. La lettre d'excuse demande une belle imagination et un peu d'humilité. Voilà, Jacques Vallée, je crois que vous avez fait une grosse, grosse bêtise et vous souhaitez demander pardon. Présentez-vous.
Moi, je suis Don Gomez, comte de Gormaz.
Oh. Eh bien, il y a un petit quelque chose. Hein. On y pense en vous regardant. Où est l'épée? Où est l'épée? Il l'a laissée à la maison.
Oui, mais bon.
Et alors?
Et j'écris à Don Diego de Bivar.
Évidemment. Vraiment pour vous excuser.
Bon, Diego, on va pas rester là-dessus. Tu l'as un peu cherché, non? À force de courber les chines, le roi t'a nommé gouverneur de son bâtard, mais cet honneur m'était dû. Mes états de service parlent pour moi. Je suis le chef des armées, je suis le rempart de la Castille. J'ai mis la pâtée à Grenade, à Cordoue, à la Galice, à l'Aragon, à l'Elsa, bref, comme dit l'autre.
À l'Aragon, à l'Elsa, c'est très drôle, hein. Je vous avais noté.
Bref, comme dit l'autre, chaque jour, chaque instant pour rehausser ma gloire, mais, du verbe mettre, mais laurier sur laurier, victoire sur victoire. Tu me connais. Tu as combattu à mes côtés, je ne supporte pas l'injustice, c'est plus fort que moi, je vois rouge. Je suis comme le taureau de Castille, faut pas me provoquer. Comme le taureau, je fonce. Quand on se battait sur tous les fronts, t'étais fringant. Pas de problème, tu tenais encore la route, j'obéissais. Mais aujourd'hui, le commandant en chef, c'est moi. Je suis ton supérieur hiérarchique. Devant moi, personne ne moufte, donc tu oublies. Tu oublies les insolences, tu oublies de jouer les matameurs. Avec moi, je te conseille profil bas. Aujourd'hui, ma fille Chimène et ma femme Christine, tu les connais, me font la gueule depuis qu'elles ont appris que je t'ai mise une beigne. La belle affaire. Elles me conseillent de faire un geste. Rassure-toi, tu ne vas pas en recevoir une autre. Le roi aussi me presse de me réconcilier. Je le reconnais, j'ai le sang un peu trop chaud. Je me suis trop ému d'un mot, mais c'est vrai. C'est fait, c'est fait.
Il n'a pas l'air de trop regretter. Hein.
Je ne vais pas me prendre la tête. Comme dit l'autre, qui ne craint point la mort, ne craint point les menaces, j'ai le cœur au-dessus des plus fières disgrâces. Diego,
Je t'envoie cette bafouille parce que la famille s'en mêle. La mienne et maintenant la tienne. Ton fils Rodrigue est venu me provoquer en duel, ce petit con, qu'on n'avait jamais vu les armes à la main. Je n'en fais qu'une bouchée de ton bichon. Mais je ne peux pas me battre avec un novice, c'est déloyal. Tu le sais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je me retiens donc. Je me retiens, mais il me harcèle. Tu Dieu, il est remonté comme un coucou suisse. S'il continue, je vais lui montrer, moi, qui c'est d'Angomès, comte de Gormas, aux quatre coins de Séville qu'on va le retrouver, ton Charlot, éparpillé par petits bouts, façon puzzle, comme dit l'autre. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne, plus je dynamite, je disperse et j'enquille. Bon, je me calme. Je pense à ma chimène. Entre nous, je n'avais rien contre ce mariage avec ton fils. Je te dirais même, on est entre soldats. Il promet, ce puceau. Il est fougueux, il est vaillant. Mais tu as intérêt à le calmer, à le mettre quelque temps sous clé, ton Tarzan. Et puis c'est trop bête. On ne peut pas continuer à se faire la gueule si nos enfants qu'on vole. Et quoi, une baffe? On est quand même dans notre métier habitué à recevoir des coups. Alors c'est vrai, cette gifle est de trop. Je n'aurais pas dû. Je suis un militaire de haut niveau, et à la ville comme sur le terrain, je dois apprendre à me dominer, à dominer mes nerfs. Et puis cette torgnole, c'est malgré moi qu'elle est partie, un peu comme le Ventura qui a claqué son Adjani. Alors voilà, je m'excuse. Diego, tu vas pas continuer le reste de ta vie à en faire un fromage. On en a vu d'autres, morbleu. Je reconnais, tu as blanchi sous les travaux guerriers, mais le temps est venu de sucrer des fraises. Pourquoi, comme dit l'autre, le naufrage a commencé. Alors même si ton bras mollit, si tu enrages, calmos. Ta gloire passée fait toujours bien dans le paysage. Elle reste intacte. Mais je vois arriver ce jeune coq de Rodrigue. Il revient à la charge. Je vais lui expliquer que ce n'est plus la peine de monter sur ses ergots. Je lui ordonne de t'apporter cette lettre. Je suis ton très humble, très obéissant et très... Et puis ça, la lettre s'interrompt.
Ah, oh là là. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Évidemment, vous semblez minimiser cette baffe, on peut dire. Mais étant donné votre format, elle a quand même dû faire mal.
Ben oui. Mais il fallait s'excuser, il s'excuse.
Oui, il est correct. Hein. Il a fait du mal, mais qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Abertrand? Il serait bon dans une reprise? Non, du
oui,
rôle.
Oui, tout à fait.
Il a un surtout qu'il française.
Il jongle assez facilement entre Corneille et Georges Lautner. À un moment donné, où on croirait entendre Bernard Blier dans Les Tontons Flinqueurs.
Ah, oui. Ah, c'est pas faux. Dites-moi, Lucas Fournier, seriez-vous Don Diègue?
Oui, je suis le vieux Don Diègue.
Oh là là, chenu, vieillard.
Oui.
Alors, vous recevez la lettre de Don Gormaz?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis pas mécontent de faire un petit épitaphe à ce malheureux garçon.
Ah oui,
quand
parce qu'entre le moment où vous avez reçu la lettre, évidemment, et maintenant, il est passé de vie à trépas, et donc, vous déposerez la lettre sur sa tombe.
Je vais la lire devant lui.
Ah, bah, oui. Vous ne pouvez plus rire, Jacques Vallée, vous êtes mort.
Ah, donc Gomez de Gormaz, alors, qu'est-ce qui se passe? Un puceau t'époussette et d'un coup, tu te casses? À gifler les vieillards, tu te fendais la poire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voici venu ton heure et le temps de souffler. Tu vas le digérer un moment, ce soufflet qui rompit en deux mes maxillaires, ce soufflet qui brisa mon honneur militaire, ce soufflet dont le nom résonne en tout Séville, ce soufflet qui éteint mon amour pour ta fille, ce soufflet qui esquinte et ma joue et mon nom, ce soufflet qui claqua comme un coup de canon, ce soufflet qui m'essouffle à l'avoir trop cité, ce soufflet qui boursouffle et cesse d'exciter, ce soufflet que Corneille a trop laissé monter, ce soufflet plein de vers qu'on ne sait plus compter, ce soufflet qu'à dîner Chimène n'aura pas, ce soufflet qu'on servit pour ton dernier repas, ce soufflet qu'au théâtre, dans son trou, le souffleur ne peut plus supporter sans en verser des pleurs. Ce soufflet, reçois-le et qu'enfin je me venge. Ce soufflet, tu le prends ou sinon je le mange. Tu faisais des soufflets, mais c'est toi qui t'affaisses. Et Rodrigue, mon sang, se lève où tu t'abaisses. C'est mon fils, c'est mon sang, il m'a époustouflé. Et maintenant, je sais, c'est tant trop essoufflé.
Oh là là, mais quel rôle! C'est à peine un rôle de composition, hein. C'est Lucas Fournier dans 25 ans à peu près,
merci,
ou 30.
Merci quand même,
il est en grande forme.
Et du fond de sa tombe, que dit Jacques Vallée?
Et du fond de sa tombe, que dit Jacques Vallée ? Bravo, hein ?
Mais oui.
Et il me regarde avec...
L'œil était dans la tombe, c'est ça.
Il est assis sur son siège dans l'ombre et il le regarde méchamment. Avec envie, d'ailleurs.
Fall in Love par Randy Newman. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, La brève histoire des choses par Jacques Bertrand et le DLA au diagnostic à l'aveugle, un piège littéraire tendu par Hervé Letellier à Eva Almassi, Patrick Beignet, Jacques Vallée et Lucas Fournier. Donc, brève histoire des choses. Le feuilleton long cours de Jacques Bertrand qui deviendra un livre très bientôt, avec entre autres l'histoire du cadenas, celle du chapeau ou de la perceuse. Jacques Bertrand nous narre et nous, on est sous le charme. Brève histoire des choses, Jacques, la chaise.
Lorsque l'homme se fut mis en tête de se tenir droit, il en éprouva d'abord toutes sortes d'agréments, en dépit d'un équilibre précaire. Il voyait plus loin, il se trouvait en mesure de regarder ses congénères en face, à défaut des choses. L'homme a toujours éprouvé quelques difficultés à regarder les choses en face. Il allait pouvoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Seulement, assez rapidement, il commença à ressentir un peu de fatigue en fin de journée, particulièrement au niveau des lombaires. Quelques millions d'années plus tard, alors qu'il était assis sur un rocher dans la position dite du penseur de Rodin, lui vint l'idée de la chaise. Après plusieurs essais infructueux, comme le tabouret à un pied, qui devait ressusciter plus tard sous la forme de la canne de chasse à sel incorporée, il parvint à la chaise, paillée, cannée, à 4 pieds et un dossier, et à un repos bien mérité. De retour de la chasse ou de la cueillette, le mâle s'installait sur sa chaise pendant que sa compagne, on présume que c'était déjà le cas, cuisinait. Il s'ennuyait un peu, car Théophraste Renaudot n'avait pas encore inventé le journal. Alors il se mit à tenir quelques discours ex cathedra, bien avant de savoir le latin et d'envisager de bâtir des cathédrales. Au fond, il était plutôt satisfait. Le steak de mammouth était cuit à point, le silex taillé lui permettait de confectionner des cure-dents. La mère de ses enfants était plutôt gironde, à la ressemblance de la Vénus de Lespugue, et se révélait exceptionnellement féconde. Mais la plupart des enfants mouraient en bas âge, ce qui était un souci de moins. On prévoyait un avenir radieux, on espérait le réchauffement climatique. Longtemps, l'homme s'est couché de bonne humeur. C'était compté sans le goût du progrès qui, semble-t-il, lui était venu de naissance. Il ne cessa de vouloir améliorer les choses, à défaut de s'améliorer lui-même. Mais il était régulièrement tenté de s'allonger, pour la nuit ou en cas de somnolence postprandiale. Encore quelques millions d'années et il put enfin s'étendre sur une chaise longue. Mais n'anticipons pas. L'histoire de l'humanité, qui pourrait être résumée par celle du chapeau, serait tout aussi bien illustrée par celle de la chaise. Passons sur les intrépides cavaliers qui ne descendaient jamais de cheval et faisaient, à l'exemple d'Attila, cuire leurs gigots de mouton sous leur selle. La selle imprégnée de sueur animale procurait également le sel. La chaise fut de tout temps un lieu de parole. Chez Molière, les précieuses ne l'appelaient pas autrement que « commodité de la conversation ». De hauts magistrats pontifiaient volontiers sur la chaise curule en ivoire. Des monarques, des empereurs et des ducs, parfois autoproclamés, édictaient des lois, des règlements, des interdits, du haut d'un trône plus ou moins bien décoré. En cas de besoin, ils se livraient aux mêmes activités sur une chaise percée. Des rois fainéants, des aristocrates fortunés, des grands industriels donnaient des ordres et signaient des édits ou des contrats en chaise à porteur. Toutes sortes de gens, par ailleurs, se trouvaient assis entre deux chaises, tandis que des députés pratiquaient la politique de la chaise vide. Et nombre d'entre eux finissaient au Père-Lachaise. Naturellement, cet amas de chaises fut vite encombrant. Il fallut embaucher des chaisières et créer la chaise pliante. Nous citerons encore, pour délasser l'auditeur, la chaise à bascule, le fameux rocking chair, qu'on voit se balancer en grinçant sur les plateformes en bois des ranchs de Western. Par respect pour des milliers d'électrocutés, dont quelques-uns étaient innocents, n'en doutons pas, nous passerons sous silence la chaise électrique. Pour finir par la pire des chaises, la chaise longue. Si l'homme ordinaire n'en fait jamais assez, l'homme ingénieux en fait toujours trop. Vous voyez la bombe atomique, le missile solaire, le porte-avions nucléaire, la myxomatose. La chaise longue, inaugurée sur le pont des transatlantiques pour des croisiéristes en mal d'iode, a envahi les plages, les jardins et les terrasses de la planète. On ne connaît personne qui se soit jamais senti bien sur une chaise longue.
Oh.
À part certains intellectuels, selon Jean-François Revel. Le fils de ce dernier intellectuel, craignant d'être associé à ce siège de mauvaise réputation, est devenu lama tibétain. La chaise longue, il faut d'abord la déplier, découvrir comment. En régler la hausse, l'essayer, se relever péniblement, modifier la hausse, l'essayer de nouveau au moins deux ou trois fois. Votre degré de fatigue est déjà très supérieur à la légère torpeur qui vous avait donné envie de vous allonger. À la suite de quoi, vous renversez votre café sur la toile, qu'il faudra découdre pour la laver et la recoudre. Lorsque vous vous croyez enfin installé, vous découvrez que vos mollets reposent sur la barre d'appui du bout de la chaise, ce qui est plutôt désagréable. Vous vous relevez à nouveau pour chercher un coussin. Puis vous êtes obligé d'admettre qu'il s'agit d'une très mauvaise position pour lire. Lorsque vous vous livrez à une dernière tentative, épuisée, vous vous laissez lourdement tomber sur la chaise longue. Or, la barre de réglage est mal enclenchée dans un des créneaux. La chaise longue s'aplatit brutalement en vous écrasant un doigt. Eût-il connu la chaise longue, Blaise Pascal n'aurait pas manqué d'y réfléchir. Tout le malheur de l'homme tient à ce qu'il n'a jamais su se contenter de s'asseoir par terre.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, le DLA, ou diagnostic littéraire à l'aveugle. Écoutez un texte d'une quinzaine de lignes attentivement, un texte anonyme. L'analyser, le décortiquer pour lui faire dire son âge. À quelle époque a-t-il été écrit? Sa langue, en français direct ou traduction? Et si oui, de l'anglais, de l'italien, du hongrois, de l'espagnol, j'en passe. Ces lignes se trouvent-elles dans un roman, un essai, une nouvelle? Il faut avancer au DLA, indice après indice, pour pouvoir en fin de jeu donner un nom d'écrivain qui pourrait avoir écrit ce bout de littérature. Et attention, on joue avec des auteurs très connus. Mais bon, qui connaît qui? Ça, c'est difficile. Le maître du jeu du jour, c'est Hervé Le Tellier. Lui seul sait à qui appartient l'extrait qu'il va nous lire, même moi, je ne suis pas dans la confidence. Les experts, eh bien, c'est vous, comme chaque fois, vous, à l'écoute. Et aujourd'hui, chez nous, Eva Almassi, Patrick Beignet, Jacques Vallée et Lucas Fournier. Dans un premier temps, Hervé Le Tellier nous fait la lecture.
Un agent m'arrêta et dit « La chaussée au véhicule, le trottoir aux piétons ». On aurait dit de l'Ancien Testament. Je montai donc sur le trottoir, en m'excusant presque, et je m'y maintins dans une bousculade indescriptible pendant une bonne vingtaine de pas, jusqu'au moment où je dus me jeter par terre afin de ne pas écraser un enfant. Il portait un petit harnais, je m'en souviens, avec des clochettes. Il devait se croire un poney ou un percheron, pourquoi pas. Je l'aurais écrasé avec joie, j'aborde les enfants. Ça aurait été d'ailleurs lui rendre service, mais je craignais les représailles. Tout le monde est parent, c'est cela qui vous interdit d'espérer. On devrait aménager dans les rues passantes des pistes réservées à ces sales petits êtres, leurs landaux, cerceaux, sucettes, patinettes, trottinettes, pépés, mémés, nounous, ballons, tout leur sale petit bonheur, quoi. Je tombai donc, et ma chute entraîna celle d'une vieille dame couverte de paillettes et de dentelles et qui devait peser dans les 200 livres. Ses hurlements ne tardèrent pas à provoquer un attroupement. J'avais bon espoir qu'elle s'était cassé le fémur. Les vieilles dames se cassent facilement le fémur, mais pas assez, pas assez. Je profitais de la confusion pour me défiler, en proférant d'inintelligibles imprécations, comme si j'étais moi la victime, et je l'étais, mais je n'aurais pas pu le prouver. On ne lynche jamais les enfants, les bébés, quoi qu'ils fassent, ils sont blanchis d'avance. Moi, je les lyncherai avec délice. Je ne dis pas que je mettrai la main à la pâte, non, je ne suis pas un violent, mais j'encouragerai les autres et je paierai la tournée quand ce serait fini.
Le choix de ce texte nous indique beaucoup de choses sur le profil psychologique d'Hervé Le Tellier. Ce n'est pas innocent. Bon, c'est un texte drôle, délicieux, non, Jacques Vallée?
Ah oui, qu'est-ce que vous pensez? C'est d'un bel humoriste moderne.
Oui.
Je m'aperçois qu'il n'y a pas de majuscules après les points et qu'il y a des majuscules après les virgules, ce qui me trouble un peu.
Oui.
Mais à part ça, il y a beaucoup d'humour et on se croirait dans un film de Fiennes.
Ah bah oui, qui détestait les enfants, bien sûr. W.C. Fields.
Oui.
Est-ce que, Patrick Beignet, vous êtes d'accord? On est chez un humoriste professionnel.
C'est peut-être un humoriste professionnel, mais il ne me fait pas rire.
Ah bon? Alors
je trouve ça d'une lourdeur. J'ai envie de l'écraser.
Si ah bon? Ah oui.
Non, s'en prendre au bébé, franchement. Il y a trois siècles.
Mais il y en a
ça.
Trop.
C'est pas la question, on parle de littérature, Jacques. Voilà, je trouve ça pesant, appuyé. Ça m'étonne qu'Hervé Le Tellier, qui est quelqu'un de raffiné, fasse un choix pareil.
Oui, bon, c'est le point de vue de Patrick Beignet.
Oui.
Eva Almassi, votre approche du texte?
Eh bien, on peut aimer à la fois et passionnément les enfants et aimer quand même ce texte. Parce que c'est un texte vraiment délicieux, bien écrit, bien rythmé. On voit très très bien le personnage qui va comme un bulldozer sur le trottoir et c'est son monde à lui, alors que les autres n'ont qu'à s'écarter, qu'elles soient des vieilles dames ou des enfants. Alors avec ce ego, super ego, hyper ego, archi gonflé, peut-être que derrière on a un auteur tout tendre.
Lucas Fournier, qu'est-ce qu'il nous raconte et pourquoi?
Et je me demande ce que l'histoire nous raconte. Que la première fois, ça nous raconte l'histoire d'un homme qui ne doit pas marcher sur la chaussée, qui monte sur le trottoir et qui est bousculé. Mais en le relisant une deuxième fois, je me suis demandé si le narrateur était un homme réel.
Ah bon?
Si ce n'était pas un animal, une charrette, un objet, quelque chose. Alors évidemment, on dit la chaussée au véhicule, le trottoir au piéton. Donc c'est un piéton, mais est-ce que c'est un piéton bipède, humain ou autre chose?
Pourquoi tu vois un hippopotame?
Le texte fonctionne très bien si c'est un énorme chien.
Oui, la réflexion d'un chien sur une vieille dame ou sur un enfant.
Voilà, ce qui du coup ferait lire le texte différemment, parce que la haine qu'aurait ce gros chien, ou des enfants, des landaux, des poussettes, des bébés, évidemment, serait
justifié.
Plus excusable.
Et puis le chien, plus excusable. Les chiens ont des mains, n'est-ce pas? Et mettent la main à la patte.
Donc c'est un singe à ce moment-là.
Oui,
voilà.
Mais
effectivement, à la troisième lecture, cet argument peut
tomber. Tu vois un chien qui veut lyncher des enfants.
C'est quand même assez bizarre, ton histoire.
Est-ce que c'est écrit en français, Patrick Beignet, ou nous avons sous les yeux une traduction?
Je pencherai pour la traduction,
oui,
dans la mesure où je n'aime pas le texte.
De quelle langue?
Écoutez, moi je verrais assez bien quelque chose d'Europe centrale, genre oui, polonais aussi. Par exemple, un auteur polonais. Mmh.
Pourquoi oui. Un petit argument pour
ben, un auteur un peu moderniste.
Ou italien.
Ah, moderniste ou italien, oui. Non, mais c'est vrai, oui. Non, mais c'est,
y a exactement le même genre. Il y a un
c'est côté pas les avant-gardes auxquelles nous sommes habitués, oui, mais voilà. Il y a des avant-gardes hein, voilà, qui nous paraissent un peu pervers.
C'est des avant-gardes italiennes.
Ouais. Vous êtes aussi pour la traduction, Jacques Vallée?
Non, mais comme j'avance la possibilité d'un italien, ce serait donc une traduction.
Ah oui, ça, évite, ah oui,
ça collerait mieux. Eva Almassi.
Moi, je pense que c'est une traduction aussi, parce qu'il y a des choses qui mais très, très bien traduites, très bien écrites aussi en VO, mais le poney opposé à un percheron, il y a un peu de recherche, c'est pas spontané. De même, la grande énumération qui est très très bien rythmé et ça sonne très bien, les patinettes, des trottinettes, pépé, mémé, nounou, ballon. C'est très bien fait, mais ça n'est pas spontané. Donc moi, je penche pour la traduction qui est un deuxième degré, forcément.
Une bonne traduction.
Mais une très très bonne traduction.
Une très bonne
sauf,
traduction.
Sauf peut-être le, en proférant d'intelligible imprécation. C'est la seule toute petite lourdeur.
D'inintelligible.
Mais d'inintelligible imprécation.
Et tout le sale petit bonheur des enfants, c'est oui. Lando, cerceau, sucette, patinette, oui, trottinette, oui, pépé, oui. Mémé, nounou, ballon, tout. Leur sale petit bonheur, quoi. Oui. C'est joli, ça.
C'est très, très
oui,
joli.
Oui, sauf et que, à la raison, cette énumération de mots n'est pas très harmonieuse.
Ah bon enfin,
je
si,
pense qu'écrit directement en français.
Si, c'est très bien fait.
Je trouve ça magnifique.
Ah non, c'est très, très, très bien fait. Oui. Mais il y a le verbe lyncher qui est très anglo-saxon pour moi. Donc moi, je ne pense pas qu'il s'agisse d'Italie ni de France, mais je pencherais plutôt pour une traduction de
dites-moi,
l'anglais.
Oui, très bien. Dites-moi, Patrick Beignet, ça se trouve dans quoi?
Un livre de 400 pages, sans alinéa, une tentative de... Non, mais c'est oui. Très sérieux, une tentative de littérature moderne, faite en Pologne dans les années 30.
En Pologne. Et pourquoi pas en Autriche, à Vienne?
Ah non, je ne pense pas que ça puisse être
en Autriche. Ils sont plus sérieux, les Autrichiens.
Voilà, oui.
Et alors, ce livre de 400 pages raconte quoi, le quotidien?
Mais il ne raconte rien, c'est de l'avant-garde, du modernisme. Ah
ben, mais là, ça nous raconte quand même quelque chose.
Non.
Non.
Non. Alors là, on pourrait citer le nom d'un auteur autrichien, effectivement. Ça raconte la haine du monde tel qu'il est.
Oui.
Voilà, oui.
Oui.
Mais c'est pas une intrigue extrêmement.
Et puis on compte en kilogrammes en Autriche et pas en livres.
Oui.
La dame pèse 200 livres.
Ça, c'est peut-être une erreur de traduction.
Non, mais là, il faudrait savoir dans quel pays d'Europe centrale on compte en livres et, ou en kilos.
Non, on compte en kilos.
On le réécouterait volontiers, Hervé Le Tellier.
Mais je sens que vous
mettez tout
vous
votre esprit
bien.
Dans votre lecture.
Un agent m'arrêta et dit « La chaussée au véhicule, le trottoir au piéton ».
Alors, la chaussée, je précise que le « la » est avec une majuscule, alors que derrière le dit, il y avait une virgule. Hein.
Mais c'est parce qu'il y a ça, c'est des dialogues modernes, il n'y a pas de guillemets.
Ah ben voilà, c'est
de
ce
tirer.
Que dit Patrick Beignet, on est dans la modernité.
C'est ça qu'on fait en polonais.
Ouais. Alors, donc la chaussée,
il y tient pour son polonais. Lui.
On aurait dit de l'Ancien Testament. Mmh. Je montais donc sur le trottoir en m'excusant presque, et je m'y maintins dans une bousculade indescriptible pendant une bonne vingtaine de pas, jusqu'au moment où je dus me jeter par terre afin de ne pas écraser un enfant. Il portait un petit harnais, je m'en souviens, avec des clochettes. Il devait se croire un poney ou un percheron, pourquoi pas. Je l'aurais écrasé avec joie, j'aborde les enfants. Ça aurait été d'ailleurs lui rendre service, mais je craignais les représailles. Tout le monde est parent, c'est cela qui vous interdit d'espérer. On devrait aménager dans les rues passantes des pistes réservées à ces sales petits êtres, leur landau, cerceau, sucette, patinette, trottinette, pépé, mémé, nounou, ballon, tout leur sale petit bonheur, quoi. Je tombai donc, et ma chute entraîna celle d'une vieille dame couverte de paillettes et de dentelles et qui devait peser dans les 200 livres. Ses hurlements ne tardèrent pas à provoquer un attroupement. J'avais bon espoir qu'elle s'était cassée le fémur. Les vieilles dames se cassent facilement le fémur, mais pas assez, pas assez. Je profitais de la confusion pour me défiler en proférant d'inintelligibles imprécations comme si j'étais moi la victime, et je l'étais, mais je n'aurais pas pu le prouver. On ne lynche jamais les enfants, les bébés, quoi qu'ils fassent, ils sont blanchis d'avance. Moi, je les lyncherai avec délice. Je ne dis pas que je mettrai la main à la pâte. Non, je ne suis pas un violent, mais j'encouragerai les autres et je paierai la tournée quand ce serait fini.
Alors, il y a quand même une chose qui date le texte, c'est le harnais du petit enfant. Parce qu'il y a eu une époque, me semble-t-il, où les enfants, parfois, étaient attachés. Ils avaient une sorte de harnais et on les tenait en laisse dans la rue pour ne pas les perdre et pour ne pas qu'ils traversent la rue tout seuls.
C'était l'époque où il y avait peu de circulation en plus sur la chaussée, et alors, comme ça a été relevé tout à l'heure.
C'est les années quoi, ça?
C'est avant le début du 20e siècle. Ah non, c'est beaucoup plus ancien, c'est le début du 20e siècle.
Il y a ça chez Proust, des enfants qu'on tient par la laisse. Harnais. Oui, ne me regardez pas.
Mais en Pologne encore, ça existe.
Alors oui, probablement en Pologne, c'est toujours à la mode.
Je craignais les représailles dans le personnage.
Enfin, c'est assez savoureux. La personne s'amuse et trouve que je montais sur le trottoir en m'excusant presque. Tout ça, il se moque aussi de lui.
Il fait de la provocation.
Il se regarde, mais il s'amuse.
En faisant un peu beaucoup quand même.
Oui, en faisant beaucoup. Voilà. Donc, mais c'est un jeu. C'est quelqu'un qui aime bien s'amuser comme ça avec les mots.
C'est presque un texte à dire à haute voix.
C'est un côté dialogue.
Ou monologue intérieur.
Ah, dialogue de Roland Dubillard.
Oui, c'est un côté dialogue. Oui. C'est pas ça, mais c'est un côté comme ça.
En plus polonais.
Si ça vient de l'étranger, c'est plus américain, je dirais.
Qui a décidé que ça venait de l'étranger, à part Patrick Beignet? On avait une vague piste italienne pour Jacques Vallée, vous la maintenez?
Je peux la maintenir.
Oui, Lucas et
Pavel. Parce qu'on a une sensation de traduction, alors peut-être à cause de la ponctuation, il y a beaucoup de virgules, à cause de certaines majuscules qui manquent ici ou là, à cause d'un style et d'un ton qui est différent d'une écriture française classique, et ça peut effectivement être une traduction de grande qualité cette fois-ci, parce qu'il y a une recherche du traducteur, voilà, avec une question quand même grammaticale, et là je me tourne vers... notre ami Patrick Beignet, j'avais bon espoir qu'elle s'était cassé le fémur.
Oui.
Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait correct grammaticalement.
Ça me gêne depuis le début.
Un petit problème de temps.
Il y a un petit subjonctif là qui a été oublié. Qu'elle se fût cassé le fémur, mais bon, un auteur moderne, un traducteur moderne l'aurait sans doute corrigé comme ça.
C'est-à-dire que le subjonctif, on ne l'entend plus beaucoup de nos jours. Ce qu'on peut regretter, d'ailleurs.
On le regrette ou on ne le regrette pas, mais enfin...
Oui. Mais donc ça peut accréditer une certaine époque.
Oui, mais il y a un côté parlé, il y a un côté...
Espérer, il n'y a pas de subjonctif.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce texte, Eva?
Alors donc, moi, j'exclus les auteurs français parce que je n'en connais pas un seul qui écrirait ça, mais après... Peut-être je me trompe et lourdement. Par contre, je vois très bien l'anglo-saxon ou même les anglo-saxons à qui je pense. Ou, d'ailleurs, c'est une sorte de sport national que de se montrer misanthrope vis-à-vis de tout petits hommes, les enfants. Mais c'est une pause, c'est pas, je vous rassure.
Alors, anglo-saxon, polonais.
Europe centrale,
Europe
peut-être.
Europe centrale, Italie, finalement, personne n'est en France.
Mais si, ça pourrait être en France. Pourrait, Mais moi, j'ai les deux pistes, alors.
pas mal.
Je garde les deux pistes. Non, mais ce que j'aime, c'est le côté loufoque, farfelu qu'il y a dans ce texte. Il y a des loufoques dans tous les pays.
Et alors, est-ce que le loufoque auquel vous pensez écrit toujours comme ça, ou c'est une petite chose à part dans sa littérature?
Oh non, je pense qu'il doit faire une fixette là-dessus, et il doit rester accroché à son écriture drôle, qui fait rire les dames autour de lui et Hervé Le Tellier.
Sauf les vieilles dames. Hein,
Sucette, patinette, trottinette, fixette.
Ouais, ça, c'est une mauvaise traduction.
Non, c'est une bonne traduction.
Mais moi, c'est trop systématique de faire rimer landau avec cerceau, après sucette, patinette, trottinette, ça rime, après pépé, mémé. Donc, c'est quand même un procédé un peu...
Bah, c'est joli. C'est très gentil.
C'est un peu de la tartine de confiture.
En tout cas, je m'inscris en faux, puisque l'auteur, en tout cas, auquel moi je pense, s'est pratiqué absolument toutes sortes d'écritures. Et d'ailleurs, il les varie dans son œuvre.
Ça peut être... n'est pas obligatoirement l'auteur auquel je pense.
Non, ça, c'est juste pour dire que c'est une possibilité.
Non, je pense qu'il y a un gouffre entre vous deux. Il a quel âge, cet homme? C'est un homme un peu mûr qui se rappelle sa jeunesse, son côté fringant.
Oui, un peu. C'est un jeune homme aventureux.
C'est un homme se penche sur son passé.
Non, il a toujours écrit, donc il se penche sur rien du tout. Il n'a même pas envie de... Si, il se penche sur les vieilles dames qu'il renverse pour s'amuser.
Bon, écoutez, moi j'aimerais bien vous entendre prononcer des noms. Alors, Patrick Beignet, vous avez la piste polonaise, vous avez sûrement un nom polonais à nous proposer.
Mais oui, je proposerais Witold Gombrowicz, dans un écrit de jeunesse.
Oui, c'est très bien.
Ah oui. C'est une très bonne idée. En fait, il a été parfaitement cohérent. Il n'a pas dit tellement de choses, Patrick, non. Mais elles vont toutes dans le même sens. L'auteur non plus. Mais lui, sur 400 pages. Ouais. Lucas Fournier.
Moi, j'avais pensé à un auteur d'Europe centrale bien traduit, donc Kafka traduit par Vialat.
Ah, Kafka traduit par Vialat. Il écrit ce genre de choses, Kafka?
Oh, il peut écrire des choses, oui, abracadabrantesques.
Oui. Eva Almassi.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que jusqu'aux clochettes, donc c'est-à-dire à peu près 10 lignes, j'avais noté Kafka. Ah. Mais après l'énumération et puis la gentillesse et cet humour plus ourlé et cousu, je l'ai écarté. Gombrowicz, je l'ai noté aussi, mais sans doute sous l'influence de Patrick. Et moi, je dirais Joyce.
Ah oui, carrément Joyce. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, Jacques Vallée, alors.
Mais alors moi j'ai un Français et un Américain.
Vous aviez parlé d'un Italien au début.
Oui, hein. Mais l'Italien,
c'est un Américano-Italien.
Oui, peut-être. Non, oui. Ça pouvait être Buzzati, mais je le laisse tomber.
Ah, bon.
Donc je pense ou Serge Valetti, si c'est en français, ou Richard Bretigan.
Est-ce qu'on jouerait avec Valetti? Est-ce qu'il est suffisamment connu? Parce qu'on joue avec des gens extrêmement connus à ce jeu.
Pourquoi
hein
pas? Ben alors, si on ne joue pas avec lui, vous le barrez et vous mettez Richard Bretigan. Donc, vous barrez Valetti, je n'ai rien dit, je n'en parle
non,
plus.
Non, on garde votre Valetti, on garde les deux pistes. C'est une question que je me pose, parce que j'ai dit toujours
ça, quand...
dans ce jeu qu'on joue avec des gens très connus. Alors maintenant, tout le monde ne connaît pas les mêmes. Hein. Oui, bon. Alors, écoutez, Hervé Le Tellier, ce débat était très animé.
Très, très intéressant.
Très intéressant. Très intéressant. Alors, Patrick Beignet propose Gombrowicz. Lucas Fournier, Kafka, traduit par Alexandre Vialat. Eva Almassi, James Joyce. Jacques Vallée, il a deux choix à nous proposer. Serge Valetti, pourquoi pas. Et Richard Bretigan. Alors, est-ce que... Voilà, ces noms évoqués vous semblent intéressants par rapport aux trois noms
entendu
que vous avez, vous, écrits sur une feuille.
Ce qui est intéressant, c'est qu'un des noms a été prononcé, mais bon, mes trois noms que je vais vous proposer,
oui,
on va y aller.
Ah, allez-y.
Samuel Beckett.
Oui.
Alexandre Vialat.
Ah.
Herman Melville.
Bon, je suis désolée pour Patrick Beignet, quand même. Extrêmement désolée, parce que moi,
ils sont pas très polonais.
J'y
hein
croyais
Beckett
à la Pologne.
Beckett est d'ascendance polonaise.
Alors, ben voilà, Beckett, Vialat qui a été évoqué par Lucas comme traducteur de Kafka, et Herman Melville, ça mérite réflexion, et ça mérite un petit silence, effectivement, avant la réflexion, c'est normal. Jacques Vallée.
Moi, je ne pense pas que ce soit Beckett, je ne vois pas du tout Beckett là-dedans.
Parce
je ne pense
vous avez lu tout Beckett.
Non, mais je ressens Beckett,
oui,
et je ne vois pas du tout, alors je peux me tromper, mais je ne vois pas du tout Beckett s'amuser comme ça, à parler qui nage les enfants et tout ça. Il est beaucoup plus sérieux que ça.
D'accord.
Et donc, Vialat, je ne connais pas suffisamment, et je pencherai plus pour la traduction, donc je vais dire Herman Melville. Je ne le connais pas entièrement, j'ai lu...
Pas entièrement, juste un tout petit mot.
Mais non, mais on peut trouver... je pense que ça peut être une traduction de Melville.
D'accord. Alors, Lucas Fournier, vous qui aviez dit que c'était du Kafka traduit par Vialat, là, on vous propose Vialat, tout simplement.
Je vais rester à Vialat, qui n'a pas écrit que Les Fruits du Congo, qui a écrit aussi d'autres textes qui sont quelquefois un peu énigmatiques.
Battling le Ténébreux, et puis toutes ces nouvelles pour la montagne.
Oui, parfois angoissantes.
Oui, oui.
Donc, je reste sur Vialat.
D'accord. Eva Almassi.
Alors, moi, Beckett, je l'ai beaucoup lu quand même, en traduction ou alors en français, enfin,
oui,
puisque chez lui, il ne s'est pas décidé, hein, traduction ou français. Mais je verrai tout de suite quelque chose d'étrange qui n'est pas dans ce texte. Il n'y a pas d'étrangeté. Dans chacun des textes que j'ai lus de Beckett, il y avait une distanciation vers l'étrange. Il n'y a pas ça. Melville, je ne le vois pas comme ça. Et Violette, je ne connais que les chroniques. Donc, je n'ai certainement pas lu ce texte, mais que j'attribue quand même à Violette, parce que le mot « lyncher », que je croyais anglo-saxon, oui. Lui, par métaphore, il peut mettre ça, et même très concrètement, il peut avoir envie de... Il est féroce.
Et Patrick Beignet, alors ? Qu'est-ce qu'il pense, Patrick ?
Eh bien, il pense qu'il a du mal à imaginer le mot patinette sous la plume de Melville.
Qu'est-ce qu'il dirait, Melville ?
Ben justement, j'aimerais bien le savoir, mais c'est peut-être un mot incurablement français. Et je ne connais pas très très bien Beckett, que j'ai lu, mais pas plus que ça. Je ne connais pas très bien Violette non plus, on lit tout ça.
J'ai choisi ce texte pour Patrick Beignet.
Le mot patinette me ferait tendre à attribuer ça à Violette.
Petit résumé de la situation, nous avons trois Violettes pour Lucas Fournier, pour Eva Almassy, pour Patrick Beignet. Nous avons un Melville pour Jacques Vallée. Nous n'avons pas de Beckett. Personne n'a reconnu Beckett dans ce texte. Alors, y a-t-il un, plusieurs ou pas du tout de vainqueurs, Hervé Le Tellier ?
Eh bien, il y a un vainqueur, c'est Beckett. Et oui. C'est un texte de Beckett.
Pour Jacques Vallée.
En anglais ou en français ?
Ben oui, mais
c'est écrit sans doute en français. Bon, qui est un texte qui s'appelle L'Expulsé, oui. Et qui se trouve... dans sa première publication, en 1951, après le roman « Malheur » de Beckett. Ouais. Et c'est un texte très court, qui doit faire peut-être une petite dizaine de pages, qui effectivement est un texte humoristique. Hein. Oui. Franchement, on dirait du Benchley.
Oui, absolument.
On dirait Robert... Ouais. Moi, je trouve que ça ressemble à Robert Benchley. Enfin, il y a des trucs sur « Comment voyager avec un enfant » chez Benchley qui ressemble à ça. Ouais. C'est un texte humoristique, clairement. C'est un texte drôle. C'est un texte qui est une sorte de parcours d'un individu qui parle de chez lui, et qui arrive ailleurs, et ça ne change pas, c'est-à-dire que ça dure pendant les 10 pages, c'est comme ça. Voilà. Il parle un peu de la Joconde, un peu de toute une série d'autres...
Et ça se termine comment ?
Il est arrivé chez lui ? Ça ne se termine pas, c'est une sorte d'itinérance, une sorte d'odyssée un peu baroque, détestatoire, qui déteste tout le monde, où qu'il aille, et c'est plutôt un texte drôle, à mon avis... lu par un bon acteur, on rit tout le temps.
Mais nous n'avons pas ri.
Mais non, Paris, non. Et ça prouve qu'à mon avis, Beckett est un humoriste.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart avec Anne de Pelchin et Chess Antaus. À télécharger sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter sur la page des Papous pendant 1000 jours, une page sur laquelle vous pouvez poster vos questions, remarques, suggestions, rubrique commentaires, et puis promenez-vous chez nous dans les pages vie du club et les livres des Papous pour en savoir un peu plus sur les activités des membres de notre petite bande quand ils ne jouent pas aux Papous. On tourne la page, place à Antoine Perrault pour Tire ta langue. C'est dans quelques instants pour un très bel après-midi sur France Culture. Tiens,